septembre 2015. Les voies de service, ce n'est pas par hasard et ça ne s'écrit pas V-O-I-E-S mais bien V-O-I-X parce que je reçois tour à tour plein de gens fort sympathiques. Pour vous, bénévolement, tout ce qui peut se lire, se dire et se dire d'intéressant, de ludique, d'instructif. Alors vraiment, vous ne pouvez pas manquer cette émission, les voies de service. Moi, je vais commencer tout de suite cette demi-heure avant d'accueillir Daniel Rioux avec la presse. Je vais aller voir ce qui se cache dans les pages. Alors à la presse, à la une d'abord de la presse, une photo du chroniqueur Patrick Lagacé qui revient sur l'affaire Jérémy Gabriel contre Mike Ward. C'est d'une tristesse infinie cette affaire-là de cet humoriste qui en a peut-être un peu trop fait contre ce jeune. Là de la disque 2015, des chansons à succès, Louis-Jean Cormier et Jean Leloup sont en tête des nominations. Je vais revenir bien sûr là-dessus dans le volet culturel. Convention collective, les villes pourront agir par décret, nous dit-on. Québec veut permettre aux municipalités d'imposer les conditions de travail à leurs employés, un mécanisme d'exception qui sera prévu au terme de négociations infructueuses menées, nous dit-on entre guillemets, de bonne foi. Le scandale Volkswagen, le dérapage prend de l'ampleur. Il en est beaucoup question encore ce matin dans la presse, particulièrement dans le cahier des affaires. Le Canadien de Montréal, la glace est brisée. Ils ont perdu 2-1 hier contre les Leafs de Toronto. Également d'autres chroniques à venir dans la presse et surtout une sur laquelle je vais me pencher, celle de Rima El Khoury, mon niqab au Canada. Rima El Khoury qui est elle-même d'ailleurs syrienne, hein, si mes souvenirs sont bons. Et puis une photo du pape tout échevelé. Monsieur Obama, le pape est certainement une des légendes vivantes qu'il apprécie le plus au monde et Dieu sait s'il attendait de pouvoir le rencontrer avec grande impatience. Alors, avant de revenir sur Ward à la Commission des droits de l'homme, pourquoi pas en cours, se demande Lagacé. Peut-être le petit clin d'œil de Stéphane Laporte, comme je le fais tous les jours. Stéphane Laporte qui nous dit ce matin « Avoir tous les députés libéraux qui démissionnent depuis leur arrivée au pouvoir, c'est à croire qu'ils s'attendaient à être battus ». Nous en avons déjà parlé hier hein, de cet humour pour le moins glaçant, vraiment. Bon, en tout cas, ici, on ne peut que s'insurger contre cette qualité d'humour. Mike Ward, qui est allé de propos qui se voulaient humoristiques, et il était question de ce jeune garçon, Jérémy Gabriel. Vous vous souvenez, il y a quelques années, entre autres, il avait rencontré le pape. C'était un de ses désirs, un de ses souhaits les plus chers. Et en plus, il lui avait chanté une petite chanson. Je ne vous répéterai pas ce que Mike Ward a dit, mais c'est 5 ans plus tard, il n'est pas encore mort. Il meurt pas, le petit tabarnak. Voilà le genre d'humour à Monsieur Mike Ward. Alors, Lagacé qui dit « Je suis d'accord avec vous, évidemment, ça ne se fait pas et je ne cherche pas à le défendre. » Mais, généralement, c'est à la Cour du Québec, dans un recours civil qu'on lance soi-même, que des cas de diffamation s'exercent et il s'agit bien d'un cas de diffamation. Quand des personnalités québécoises ont jugé avoir subi un acharnement de la part de certains animateurs de radio, c'est ainsi que les choses se sont réglées, pas en passant par la Commission des droits de la personne. Et c'est là qu'il s'insurge, Lagacé. Il dit « Je ne suis pas en train de cautionner ce qu'a dit Mike Ward au sujet d'un enfant handicapé. Au contraire, dans une entrevue au Franc-Tireur en 2012, il a pu dire à Mike Ward que de ridiculiser un enfant handicapé, notamment en raillant son apparence physique, est parfaitement dégueulasse. » Non, ce qui est inquiétant, c'est le recours à une commission des droits de la personne pour agir comme police de la rectitude et pour sanctionner le libre exercice de la prise de parole par un fou du roi, ce que Mike Ward est. Au Canada anglais, des commissions des droits de la personne ont été ainsi utilisées par des groupes et des individus pour essayer de sanctionner des caricatures et des chroniques journalistiques. La chose a été dénoncée comme un détournement du mandat de ces commissions. Depuis, des mesures ont été prises pour empêcher ce genre de détournement. Dans cette affaire, Mon cœur est avec Jérémy Gabriel, dit l'agacé. Ça ne rentre pas dans la tête qu'on puisse utiliser le handicap d'un enfant pour faire rire une partie de la province. Mais utiliser la Commission des droits de la personne pour sanctionner l'hyperbole, l'exagération à des fins comiques et la liberté d'expression, je trouve ça inquiétant. Il n'y a pas de belle cause de liberté d'expression, dit encore l'agacé pour conclure. On se retrouve toujours à défendre le droit de dire des horreurs. Mais s'il faut juger des mérites et du poids de paroles décoiffantes, je préfère encore que ça se fasse là où ça se fait d'habitude, et ce n'est pas à la Commission des droits de la personne. Oh, je me verrais bien là, avec mon petit verre de vin blanc chez nous, en train de regarder les arbres et le ciel. Non, eh bien, c'est pas du tout ce que je suis en train de faire. Je suis en train de lire sur les élections fédérales, alors on y retourne. Et avec les faits saillants de la journée dans la presse, les conservateurs accusés de politiser Terry Fox. Un engagement électoral du Parti conservateur pour la recherche sur le cancer a suscité un malaise au sein de la Fondation Terry Fox. Dimanche, le Premier ministre Stephen Harper a voulu rendre hommage à ce véritable héros canadien qui a couru pendant 143 jours il y a 35 ans. Son parti a alors annoncé qu'un gouvernement conservateur réélu doublerait les dons versés à l'organisation portant son nom, jusqu'à concurrence de 35 millions. Rapidement, la Fondation a tenu à prendre ses distances, disant avoir toujours pris soin d'éviter de politiser ses activités. On ne devrait pas politiser un héros canadien comme Terry Fox, a d'ailleurs dénoncé pour sa part le chef du nouveau Parti démocratique, Thomas Mulcair. Au chapitre des promesses, mesdames et messieurs, le chef conservateur Stephen Harper s'est engagé à créer un fonds de 1,3 million de nouveaux emplois d'ici... Ah non, à créer 1,3 million, d'accord, de nouveaux emplois, oh boy, d'ici à 2020. De passage à Winnipeg, le Premier ministre a dit vouloir doubler le nombre d'emplois créés depuis le creux de la dernière récession en 2008-2009. Monsieur Trudeau, pour sa part, Harper a été un adversaire de la culture, c'est ce qu'il a déclaré de passage à Montréal. Il s'est engagé, en plus, Monsieur Trudeau, à annuler plusieurs compressions faites par le gouvernement conservateur dans ce secteur, notamment en investissant 150 millions dans Radio-Canada, le chef libéral qui s'est aussi engagé à revoir le processus de sélection du conseil d'administration de la société d'État pour en assurer l'indépendance. Quant à M. Mulcair, un gouvernement néo-démocrate protégerait davantage la caisse d'assurance-emploi. M. Mulcair s'est engagé hier à stabiliser les cotisations à l'assurance-emploi pour au moins 4 ans. Et puis, la citation du jour, elle nous vient de M. Trudeau, qui a déclaré « Toute ma carrière politique, je me suis battu contre Stephen Harper et sa vision souvent trop petite et mesquine pour ce pays. Je ne peux pas imaginer des circonstances dans lesquelles j'appuierai M. Harper afin qu'il continue à être Premier ministre. » Et puis, quelquefois, dans les journaux, on lit des choses qu'on aurait aimé écrire nous-mêmes. Et c'est donc ce qui vient de m'arriver ce matin avec Rima El-Khoury, qui signe un papier, une chronique qui s'appelle « Mon niqab au Canada ». Qui a dit que personne ne s'intéressait aux enjeux féministes dans cette campagne électorale? Je l'avoue, c'est moi, et pas plus tard que la semaine dernière, dans une chronique portant sur le très pertinent plaidoyer de Pascal Navarro pour la parité en politique. Je devrais être contente, car quel est l'enjeu sur toutes les lèvres depuis quelques jours? Le niqab au Canada. Enfin un enjeu féministe. Je devrais être contente. Et pourtant, non. Ce débat, dit Madame El-Khoury, m'exaspère. Vous êtes donc pro-niqab, Madame la chroniqueuse? Non, je ne suis pas pro-niqab, dit Madame El-Khoury, comme féministe. Ce voile intégral qui efface le corps et le visage de la femme me dérange. Je ne crois pas qu'il soit déraisonnable de demander à une nouvelle citoyenne de l'enlever le temps d'une cérémonie de prestation de serment. Ce qui ne m'empêche pas d'être choquée par l'imposture qui sous-tend cet enjeu, présenté comme le plus important de l'heure au pays. Combien de femmes portent le niqab au Canada? Difficile à dire avec précision, mais ce qui est certain, c'est qu'elles sont infiniment moins nombreuses en réalité que ne le laisse croire le tapage politico-médiatique à leur sujet. J'aurais envie aussi de poser la question, combien de femmes portent le voile ou le niqab versus combien de femmes se font par exemple, frapper aujourd'hui même par des hommes qui vont peut-être à l'église le dimanche. Voilà pour la presse ce matin. Bien évidemment, j'aurais eu beaucoup, beaucoup d'autres choses à vous lire, mais j'avais hâte d'accueillir ma prochaine invitée, nul autre que Daniel Rioux. Bonjour Daniel.
Bonjour Clotilde.
Ravie de vous retrouver encore une fois en ce mercredi. Vous, vos passions dans la vie vont dans le milieu de la migration des migrants parce que vous travaillez, vous êtes encore en exercice auprès d'eux.
J'ai beaucoup été dans ce milieu-là pendant une quinzaine d'années.
Okay.
Et dans ma vie personnelle, l'international, ça faisait partie de la maisonnée.
C'est ça.
Donc, j'ai trouvé hier un article superbe. Ça, c'est des jeunes enfants, là, je suis sûre. J'ai côtoyé les parents, mais là, je vais vous faire rencontrer les enfants. La rentrée des réfugiés.
Oui.
Ça a paru dans le journal Métro d'hier. C'est un article de Mélanie Pinto. Et vraiment, je ne sais pas si ça va vous émouvoir, mais moi, c'est collé à une réalité que je connais.
Je vais chercher ma boîte de Kleenex tout de suite.
Ah non, ce n'est pas nécessaire.
Non?
Vous allez voir, il y a de l'espoir.
Bon. Ah, OK.
Pas nécessaire. Alors, comme je disais, c'est un article paru hier dans le métro c'est de Mélanie Pinto. C'est la rentrée des réfugiés. Il y a des enfants qui arrivent ici. Hein. Alors, c'est l'histoire de Joseph et Kayag, deux enfants syriens de 7 et 12 ans qui ont vécu les horreurs de la guerre. Et ils sont arrivés au Québec il y a quelques mois seulement. Ils ont fait récemment leur première rentrée scolaire à l'école arménienne Alex Manoujian, j'espère que je prononce bien, dans l'arrondissement de Saint-Laurent. Donc, s'il y en a parmi vous qui allez vous promener dans ce coin où vous voyez cette école-là, mm-hmm. Ces petits-là sont rendus ici.
Oh.
Et c'est vraiment une belle histoire parce que c'est l'histoire se répète.
Ouais.
Alors, je vous raconte celle-là. Alors, 10h05, la cloche de l'école sonne le début de la récréation. Les élèves se retrouvent dans la cour et jouent au ballon. Rien de plus normal pour des écoliers entre vous et moi.
Mm-hmm.
Sauf que certains de ces enfants sont nés dans le bruit des bombes, un traumatisme qui les poursuit jusqu'à Montréal. Et ça, c'est vrai, ils ont beaucoup de traumatismes, les gens qui arrivent de pays de guerre. Et ça, on ne le voit pas. Ils sont assez réservés, discrets là-dessus. Lorsque Joseph est arrivé au pays au mois d'avril et qu'il entendait des avions passer au-dessus de sa tête, et on parle à Montréal, là, il avait le réflexe de se cacher sous les tables, raconte Stéphane Stas, directeur de l'école. Joseph a intégré une des deux classes d'accueil de l'établissement privé pour suivre des cours de francisation. Tous ces enfants qui arrivent doivent apprendre le français avant d'aller étudier en français dans les classes.
Mmh.
Alors, il est très réservé, voire silencieux. Un nouveau départ. Kayag, ses parents et son petit frère ont eux aussi fui la guerre. Ils ont atterri à Montréal il y a 3 mois. Il raconte son quotidien à Alep, une grande ville de la Syrie, avec un stylo. L'enfant de 12 ans dessine 2 maisons avec une bombe qui tombe. Avec des gestes et l'aide de 2 autres élèves qui maîtrisent mieux le français, il explique que ses voisins ont tous péri lorsque leur maison a sauté. Puis, il raconte en arménien avec une aisance et une attitude quasi adulte et détachée que le jour de la fête des mères, alors qu'il avait 9 ans, il a visité sa grand-mère qui vivait non loin de chez lui. Un trajet qu'il avait l'habitude de faire à pied, malgré le danger. Ce jour-là, il reçoit une balle à la jambe.
Mmh.
Kayag emporte encore la marque derrière le genou, comme il nous l'a montré en soulevant son son pantalon. Mm-hmm. Souvent avec la langue française, juste faire un petit parallèle,
oui.
Quand les jeunes apprennent le français, ils peuvent nous raconter ces histoires.
Oui, ben oui, bien sûr.
Et souvent, faute de mots, et il y a beaucoup d'histoires emmagasinées. Mm. Alors, on a le privilège, écoutons-le quand ils nous parlent.
Oui,
alors
c'est
ça,
vrai.
C'est une histoire, ils nous racontent des histoires comme celle-là. Alors, il n'en fallait pas plus pour que la famille Kehayan décide de faire les démarches pour venir au Canada. L'association EDUN, un organisme qui favorise la venue de réfugiés syriens et irakiens d'origine arménienne, a pris en charge son dossier. Incapables de quitter la Syrie par avion, les Kehayan doivent se rendre dans un pays limitrophe pour s'enfuir.
Ben oui. Alors, c'est le drame que l'on connaît en ce moment.
Ils veulent s'enfuir d'une situation qui est dramatique. Hein? Mm-hmm. Donc, tous ces gens-là. C'est au Liban, hébergé par des personnes de confiance, qu'ils entament le processus administratif avec le ministère de l'Immigration. Durant le long processus qui durera plus d'un an, souvent c'est long, ni Kayag ni son petit frère ne vont à l'école. Pour m'occuper, je fabriquais des petites voitures électriques, car plus tard, ben oui, plus tard, on a de l'espoir. C'est là qu'on sort
ben
pas
oui.
Les Kleenex.
Non,
on a tous espoir de quelque chose.
Oui, ben oui.
Ben, ce jeune Kayag, il dit, je voudrais devenir ingénieur électronique pour les avions. Alors, un rêve qui pourrait désormais devenir réalité, puisque Joseph et Kayag ont maintenant la chance de retrouver un peu l'insouciance des enfants de leur âge.
Ah oui, non, c'est
alors,
vraiment...
Alors, c'est une belle histoire.
Oui, c'est une belle histoire, puis ça me ramène, je l'ai déjà décrite, mais je ne sais pas si vous l'avez entendu, peut-être étiez-vous en régie, mais vous savez qu'en ce moment, il y a M. Harper qui brandit le spectre du danger de voir des islamistes arriver avec les Syriens, avec tous ces gens-là, bon. Et du coup, il y a côté dans le soleil, oui, et dans la presse notamment qui a fait paraître cette caricature où l'on voit des réfugiés qui sont sur la route avec le baluchon sur le dos, les valises, le sac de couchage et tout le bazar. Puis il y en a un qui dit à l'autre, penses-tu qu'un terroriste marcherait 2000 km pour commettre un attentat ? Vous êtes aussi quoi, une passionnée d'éducation, l'enfance, une passionnée de jardinage. Vous en avez des passions dans votre vie, Danielle Rioux?
Moi, je suis une relationnelle. J'aime beaucoup les gens.
Oui.
Donc, quand je trouve des articles qui me plaisent ou qui peuvent plaire à des gens, peut-être que parce que je veux parler aux gens.
Ben oui.
Et puis, en même temps, je me dis, ben, c'est des gens comme les jeunes hommes ici,
oui,
Joseph
ça.
Et Kayag. Ils vont peut-être les rencontrer dans la rue quand on va à Parc Extension. On voit tous ces gens dans les cours d'école. Ils vont peut-être porter un regard différent.
Exactement.
Sur les cours d'école. Dire, hey, il y a peut-être un petit qui me raconterait une histoire pas mal intéressante aujourd'hui.
C'est pour ça que vous avez votre place dans les voies de service.
Oui, à tout, j'espère. Et puis, il y a aussi l'analphabétisme.
Oui.
Ça, c'est une autre chose. On a des gens ici au Québec qui sont analphabètes, mais on a aussi des gens qui arrivent ici comme ces gens qui viennent d'autres pays, qui n'ont pas tenu un crayon dans leurs mains, qui savent faire qu'un X. Mmh. Alors, d'où l'enseignement qu'on leur fait. Alors, il y en a ici qui, en sortant de l'analphabétisme, vont se donner de la confiance. Et ici, c'est l'histoire d'Émile Montreuil et de Caroline Thibault-Boucher qui sont sortis de l'analphabétisme. Et c'est un article paru dans Le Métro de Roxane Léouzon. Alors, tous ceux qui ne savent pas bien lire et écrire devraient retourner à l'école. Ah, bien, s'il y en a parmi nous, là, parmi vous ici, qui désirent, faites-le, encouragez-les. Les professeurs ne sont pas là pour te juger, mais pour t'aider
mais
à devenir meilleur, a indiqué justement l'homme de 57 ans qui s'appelle Émile Montreuil. Monsieur Montreuil est l'une des 5 personnes qui recevront une bourse de la Fondation pour l'alphabétisation à l'occasion de la Journée internationale de l'alphabétisation. Beaucoup, c'est un exercice de prononciation.
Oui, hein?
Alors ici, on rend hommage à des personnes qui sont allées chercher de la formation, se sortir de l'analphabétisme, a signé Caroline Varin, directrice générale de la Fondation. Monsieur Montreuil, comme bien d'autres, a lâché l'école assez jeune et s'est occupé de sa sœur handicapée. C'est une histoire. Il a vécu dans la pauvreté. Il était un aidant naturel. Il y a 3 ans, il ne savait pas lire ni écrire. Mmh. Puis il a fait le grand saut et est entré au centre de formation Les Grands Débrouillards. Il y a les petits débrouillards, puis il y a les Grands Débrouillards.
Quel beau nom!
Oui, j'ai trouvé ça bien. Cet homme optimiste dit s'être beaucoup inspiré de l'ancien entraîneur de hockey, Jacques Demers, qui a été analphabète pendant la majeure partie de sa vie. Alors, je me suis dit que si lui, il était capable, d'apprendre, ben moi aussi, je vais être capable d'apprendre. Depuis son retour sur les bancs de l'école, M. Montreuil ne s'est absenté d'aucun cours. Alors, imaginez-vous la motivation.
Oui.
Savoir lire et écrire m'a donné beaucoup confiance. Ça ouvre des portes et il dit que c'est de la magie. Alors, ce qui a incité aussi Caroline Thibault-Boucher, qui est une autre jeune femme qui, elle, est analphabète, elle est récipiendaire de la bourse. Elle a retourné à l'école. C'est la naissance de son enfant il y a 5 ans qui l'a motivée. « Je voulais montrer l'exemple et avoir une bonne vie pour mon garçon », a expliqué la femme de 26 ans qui avait lâché l'école à 14 ans. La jeune résidente de Saint-Eustache est aujourd'hui extrêmement fière d'avoir obtenu son diplôme d'études secondaires avec d'excellentes notes à un tel point que ça lui a valu la médaille du gouverneur général du Canada.
Wow! Ben, bravo!
Il faut croire en ses rêves, il faut persévérer. Souhaite-t-elle envoyer comme message à tous ceux qui vivent des difficultés semblables aux siennes? Et j'encourage ceux qui nous écoutent en ce moment qui voudraient apprendre à mieux lire, mieux écrire, lâchez pas.
Et alors, une autre passion dans la vie de Daniel Rioux, le jardinage.
La vie est tellement courte qu'il faut avoir quelques passions.
Oui,
hein. Le jardinage. Vous, c'est le golf, je pense.
C'en est une, oui.
C'en est une, parce que ce que vous disiez à Stéphanie, vous aimez vous retrouver sur les grands parcours.
Oui.
Ben moi, dans mon jardin, j'aime ça m'y retrouver. Et ça a paru dans la presse du 20 juillet 2015. C'est un lexique quotidien entourant le jardin. Et c'est de Nadine Deschenaux. C'est que on a des petits mots. À la lumière des témoignages de nos experts, voici un parallèle non scientifique qu'elle dit, mais tout de même plausible entre le jardinage et ses effets sur le quotidien.
Oh, que j'aime ça!
Ça, j'aime ça. Alors, puis je me vois là, dans mon jardin.
Oui, oui.
Tout d'abord, quand j'aménage les plans d'un jardin, ben, ça favorise une chose chez moi, la créativité, l'imagination.
Oui.
Est-ce que c'est la même chose chez vous?
Ben oui.
Je ne sais pas. Quand on repère et reconnaît des végétaux, on sent... content.
Oui. Puis quand on les repère pas, on se sent donc
malheureux. Mais ça aide à stimuler la mémoire. Vous savez, quand on fait le tour d'un jardin, c'est quoi le nom de cette fleur-là? Oh, puis on est donc fiers quand on trouve le nom. Arroser les fleurs, que ce soit le matin, en pyjama ou le soir avant de se coucher, c'est de la méditation active. Quand on regarde les oiseaux, quand on a les moustiques après nous, on trouve ça moins drôle. Mais c'est partie de la nature. Ça fait partie de la nature. Rien de tel que de faire un ménage en arrachant les mauvaises herbes. Alors, c'est une belle occasion de faire le ménage en soi. Et c'est tellement agréable à la fin de voir tout le beau ménage qu'on a fait. Puis c'est beau et noir, tout le tour des beaux contours de plantes. Là, c'est agréable. Étendre la pelouse, bien oui, il faut le faire. C'est raviver les souvenirs olfactifs.
Ah oui, c'est vrai.
L'herbe fraîche,
ça
sent bon.
Les
senteurs de l'enfance qui reviennent. Et on se détache en même temps, pendant ce temps-là, de ses problèmes.
Oui.
À sentir.
Absolument.
Hein, toutes sortes d'odeurs.
Oui.
Sentir des parfums.
Oui,
c'est agréable, ça. Montrer son jardin à des amis. J'ai des amis cet été qui sont venus puis prenaient des photos de mon jardin. Ben, je dis, bon, tiens, on jouerait au jardin botanique.
Mais on veut en voir aussi. Je veux décrire la semaine prochaine photos du jardin Daniel.
J'ai beaucoup de jaunes, j'ai des rouges, j'ai des pourpres, du petit mauve tendre en ce moment, du rose fuchsia aussi.
Oh.
Alors, c'est sûr que la madame est contente. Alors, ça a un effet positif sur mon estime dans ce temps-là. Recevoir, bien, c'est sûr, en faisant ça, je reçois des compliments sur
mon
jardin. Ça redore ma confiance en moi. Et c'est la même chose chez vous, on est fiers. On est fiers, peut-être un petit peu dans le fin fond. Puis voir une plante défier les aléas d'une météo violente.
Oui. Elle se bat, hein?
Ouais, ben moi, elles se battent et je suis toujours ébahie de voir, à savoir à quel point on peut justement les réchapper de conditions difficiles. Et ça, Je suis ébahie à chaque fois.
Oui.
Alors, il y a aussi, pour ceux et celles, c'est, il y a le, j'ai appelé au jardin botanique, il y a la cour des sens. La cour des sens, c'est les yeux bandés, on peut visiter la cour des sens du jardin botanique. C'est un jardin qui est aménagé
c'est
à l'intention.
C'est génial.
Oui, c'est un jardin qui est justement aménagé à l'intention des non-voyants, qui permet d'expérimenter la nature autrement. Alors, votre odorat et votre toucher seront vos guides pour apprivoiser les parfums.
Wow.
Et les textures des végétaux. Durant l'été, j'ai téléphoné, durant l'été, il y a de l'animation. En ce moment, il n'y en a pas, mais ça existe, la cour des sens. Et vous pouvez téléphoner pour vérifier, avoir des détails pour vous y rendre. Alors, c'est le 514-872-1493. 514-872-1493 au Jardin botanique, la cour des sens.
Vous savez, je suis très heureuse que vous ayez parlé de ça parce que je vais communiquer ça à nos recherchistes.
Oui.
Il faudrait à tout prix qu'on invite quelqu'un qui s'occupe de ça.
Tout à fait.
Parce que vraiment, pour nos amis non-voyants, c'est formidable.
Tout à fait.
Épatant. Puis les petits aussi, les petits, c'est important chez vous.
On ne les oubliera pas, oh, même si les miens sont rendus
mais
grands.
Oui,
là, ça ne fait rien, mais bon. Mais c'est la période où il fait frais le soir, à la fin de la journée, puis on donne un bain aux petits, on commence à faire des petits bains. Alors, les bienfaits insoupçonnés du bain. Alors, les bébés qui ont été lavés avec un produit parfumé, on parle encore de sens, ont montré 30 % plus de signes d'engagement envers leurs parents et ont passé plus de 25 % moins de temps à pleurer avant le dodo. C'est merveilleux, ça.
Ça relaxe.
Et les odeurs agréables, même pour nous, là, les grands et familières, améliorent l'humeur et la vivacité d'esprit. Ça nous touche aussi. Hein?
Ouais.
Les souvenirs liés à l'odorat sont plus affectifs que ceux liés aux autres sens.
Ça,
pas besoin d'être petit
c'est vrai.
Hein, pour
non,
ça.
C'est vrai, c'est vrai.
Les éclaboussures aident à enseigner au bébé les liens de cause à effet. Dans le bain, plaque, plaque, plaque. Et les nourrissons qui font l'expérience du toucher du massage sont 50 % plus susceptibles d'établir un contact visuel, la première forme de communication avec les personnes qui prennent soin d'eux. Voilà.
Et pas... Tant, Daniel, tout ça. Daniel Rioux, c'était la voix de service qui m'a accompagnée durant ces dernières 20 minutes. Je vous remercie infiniment. J'ai très, très hâte de vous retrouver, vous aussi, bientôt au mois d'octobre, hein, je pense.
Oui, tout à fait.
Au mois d'octobre, d'accord. Merci beaucoup, Daniel. Lorsque je reviens dans quelques minutes, ce sera pour vous parler de sport.
than my love could hold you. I'm crazy for trying and crazy for crying, and I'm crazy for loving you.
Eh bien, elle s'en sort très très bien, la petite Brigitte Boisjoli, quand elle reprend un classique comme Crazy. C'est ce qu'on vient d'entendre. Aujourd'hui, les sports, je m'en occupe. Alors en sport aujourd'hui, difficile de ne pas parler de la défaite du Canadien hier. Le Canadien qui s'incline 2-1 devant les Maple Leafs, et c'était un match préparatoire typique et c'était terne au possible, écrit Jonathan Bernier dans le Journal de Montréal ce matin. Non, la rencontre d'hier soir au Centre Bell, remportée 2-1 par les Leafs, n'a pas soulevé les passions. Aucun chandail rival au sein des 21 000 spectateurs présents dans l'amphithéâtre et trop peu de joueurs réguliers d'impact sur la patinoire dans le camp des visiteurs. La troupe de Mike Babcock alignait bel et bien les 8 vétérans requis par le règlement de la LNH. Cependant, ce n'est pas avec des Brad Boys et Matt Fraser, deux joueurs ayant obtenu des invitations au camp des Leafs, qu'on obtient du jeu spectaculaire. Disons que les Leafs avaient préféré utiliser leur meneur la veille à Ottawa avec la présence des Dion Phaneuf, Geoffrey Loupoul, Nazem Kadri, James Raymer et Stéphane Robida. Dommage pour ceux qui avaient payé le gros prix pour assister à ce match, mais les exigences du calendrier préparatoire ne laissent guère le choix aux équipes. On a déjà hâte au 7 octobre, alors que la saison régulière se mettra en branle. En sport, toujours, je suis allée voir dans la presse ce qu'ils ont dit, alors que dans la presse, on titrait le match d'hier soir un soir d'audition. Invité à se prononcer sur le travail de Jared Tinordi hier soir, Michel Therrien a choisi de tout résumer en un seul mot: correct. Michel Therrien qui a dit « Bon, Tienordi a été correct, ça a été comme ça toute la semaine, ça manquait de cohésion, mais je regarde dans l'ensemble et les jeunes ont très bien fait ça. » Michael McCarron qui fait justement partie des jeunes qui ont bien fait, c'est un peu la bibite qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, Monsieur McCarron. Il dit « Je crois avoir bien joué, mais je dois être meilleur dans les mises en jeu et pour couvrir mes joueurs en zone défensive. Je dois améliorer ça, mais je sais maintenant à quoi m'attendre pour mon prochain match préparatoire. » Quant à Brendan Gallagher, il a déclaré « L'adversaire a plus ou moins d'importance. On se penche sur notre équipe. Ces matchs servent surtout à roder notre système. On veut que tout devienne naturel et instinctif. » 16 secondes ont suffi. Jake Gardiner a déjoué Zachary Foukalé. Bon, on va dire ça de même. Après seulement 16 secondes découlées en prolongation. Et les Maple Leafs de Toronto ont arraché une victoire de 2-1 aux Canadiens à l'occasion de ce match préparatoire de la saison pour le tricolore. Et puisqu'on parle de hockey, il y a la chronique de Philippe Quentin ce matin dans la presse qui dit « Savais-tu, Max ?» Il s'adresse à Max Pacioretty, que les responsabilités du premier capitaine de l'histoire du Canadien étaient immenses. Il s'appelait Jean-Baptiste Laviolette, mais tout le monde le surnommait Jack. En décembre 1999, lors de la création de l'équipe, Laviolette a aussi été nommé directeur général et entraîneur. Mieux vaudrait, Max, ne pas en parler à Marc et Michel. Ils se demanderaient peut-être où tu veux en venir exactement. Réunis à l'hôtel Windsor, alors une adresse prestigieuse du centre-ville, les promoteurs de la toute nouvelle Association nationale de hockey voulaient un club représentant les francophones du Québec. Selon le quotidien La Patrie, Laviolette demanda la prérogative d'engager les Canadiens français dont il aurait besoin, sans aucune opposition, et l'autorisation fut accordée sur le champ. Eh oui, Max, c'est ainsi que tout a commencé. Le Canadien existait depuis à peine une heure, qu'il était déjà le porte-étendard des francophones. Et le hasard a voulu que son premier leader porte le nom du saint patron des Canadiens français, comme on disait autrefois. Crois-moi, Max, tu ne deviens pas le capitaine d'une simple équipe de hockey, mais plutôt d'une institution dont les racines sont trempées dans notre histoire. Je crois que tu l'as bien compris, comme l'a démontré ton utilisation du français le jour où la nouvelle a été annoncée. Et puis, en soccer, l'impact est plus positif, il est plus dynamique. Pascal Milano écrit que Nick DeSantis est assis devant un café au lait depuis quelques minutes lorsqu'un serveur s'approche de sa table. En italien, ce dernier l'interroge sur la nomination de Mauro Biello à titre d'entraîneur-chef par intérim et lui demande s'il sera encore à ce poste l'an prochain. « Ça dépend de ce que fait l'équipe », réplique alors DeSantis. Eh bien, il y a 3 semaines, au moment de cette scène dans la petite Italie, l'incertitude était permise. Non pas que l'impact doutait de Biello ou de la réponse des joueurs, mais la situation, si elle n'était pas désespérée, n'incitait pas à un optimisme débordant. Après 3 défaites d'affilée, Biello héritait d'une équipe usée mentalement qui devait faire face à une succession de défis. Joueurs retenus en sélection, suspension de Laurent Simon, blessure de plusieurs piliers et un calendrier comprenant un périlleux déplacement en Californie. Malgré la force évidente de l'effectif, on estimait en coulisses que la griffe Biello se ferait réellement sentir à partir du match contre le Révolution de la Nouvelle-Angleterre. On est finalement loin du compte. En l'espace de 4 matchs et une récolte de 8 points sur une possibilité de 12, l'ancien capitaine a remis la saison de l'Impact à l'endroit. Chaque décision ou presque qu'il a prise lui a été favorable. Alors, sans le confirmer dans ses fonctions pour 2016, le président de l'Impact, Joey Saputo, a multiplié les louanges à son égard. Et puis enfin, un mot de golf avant d'accueillir Anne-Laure Janson, Jason Day ou l'art de tenir ses promesses. Figurez-vous que Jason Day, c'est ce que nous raconte Michel Marois, avait 13 ans quand il a annoncé à ses proches qu'il voulait devenir le meilleur joueur de golf au monde. Son mentor et cadet, Nick Swatton, et lui ont conçu un plan en 4 points qui devait mener le golfeur australien au premier rang du classement mondial vers l'âge de 22 ans. Il a mis 5 ans de plus, mais Jason Day a tenu sa promesse. Dimanche dernier, après une démonstration spectaculaire au championnat BMW, le joueur de 27 ans est devenu numéro 1 mondial. Day n'a jamais caché ses ambitions et plusieurs journalistes s'étaient un peu moqués de lui en novembre 2007, avant sa première saison sur le circuit de la PGA, quand il avait déclaré vouloir devancer un jour Tiger Woods au sommet du classement. « Mieux vaut tard que jamais », a-t-il répliqué dimanche, après sa 5e victoire de la saison, à ceux qui lui rappelaient sa promesse. Elle est déjà dans le studio, je vais lui laisser la place dans quelques secondes et terminer donc cette chronique de sport. Anne-Laure Janson est arrivée. Anne-Laure, vous avez l'habitude de venir vous aussi nous présenter une fois par semaine un papier qui a toujours un rapport, hein, je pense, avec une émission ou une autre, puisque vous êtes recherchiste, entre autres, pour l'émission Accès Libre.
Exactement, bonjour.
Bonjour, ça va bien, Anne-Laure?
Oui, merci. Bon. Alors exactement, c'est pour parler cette semaine de l'émission Accès Libre.
Oui.
Et d'un sujet qui va toucher parler des enfants atteints de surdité.
Ok.
Nous allons recevoir José Lalonde et Marie-Claude Gagnon, sa directrice du CPE La Fontaine et directrice adjointe du CPE La Fontaine, qui est également responsable du groupe qui accueille des enfants en situation de surdité au CPE La Fontaine.
Très intéressant.
Depuis des années.
C'est quand?
Ça va être diffusé vendredi à midi, midi 30 exactement.
Vendredi prochain, vendredi. Donc on sera on est le 23, 24, le 26. 20,
exactement.
D'accord. Pas samedi 26, le 25, 20, c'est ça. D'accord, le vendredi à midi 30. Hein.
Exactement.
D'accord.
Et là, je vais en profiter, donc, puisque la semaine prochaine, le 27 septembre, ça sera la semaine aussi, la journée des sourds.
Ah oui?
Oui, donc pourquoi pas le souligner
bien
également.
Sûr.
Et vous parlez d'un jeune homme qui est atteint de surdité et qui n'aura plus droit au même service à l'école, on y revient toujours. Oui. Alors, mon fils est prétérité par cette loi censée le soutenir, s'insurge son père. Pédagogie spécialisée avec la nouvelle loi, l'aide scolaire fournie à Jérémy ne lui serait plus payée, sa famille saisit la justice. C'est un article de 24 heures, sur ce thème. Jérémy, bientôt 14 ans, est atteint de surdité. Petit, il a exprimé l'envie de grandir et d'apprendre aux côtés d'enfants ne souffrant pas de handicap. Et après un début de scolarité sans accroc dans une classe ordinaire de son village de Grillon, dans le privé, à l'école catholique du Chablais, qu'il poursuit depuis 3 ans. Sa moyenne dépasse 5 et tout irait pour le mieux si ne menaçait l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la pédagogie spécialisée. Validé le 1er septembre par le Grand Conseil, le texte précise dans l'un de ses articles que les enfants touchés par le handicap et scolarisés en école privée ne se verront plus financer les prestations annexes leur permettant de suivre en classe. Pour Jérémy, l'État fournit actuellement 2 enseignants spécialisés, une logopédiste, des codeuses qui l'aident à comprendre les professeurs pendant un certain nombre de périodes et un éducateur sourd dont le rôle est de l'aider à s'adapter à la vie de tous les jours.
Mmh.
Alors,
essentiel, quoi.
Exactement. Exactement. Déçue par cette clause, la famille a décidé de saisir la justice en recourant contre ce point. « Je trouve que c'est injuste », relève Bruno Chapaz. « On est dans un état démocratique et de droit. On est libre de choisir comment on scolarise son enfant en fonction de ce qui est mieux pour lui. » Constitution bafouée. Une requête vient d'être adressée à la Cour constitutionnelle du tribunal cantonal.
Mmh.
Elle estime que l'article contesté contrevient aux principes de constitution cantonale et fédérale de la Convention européenne, puisque ça se passe en Suisse.
Ah, okay.
C'est le même sujet revient un peu partout.
Mais oui, exactement.
Cette nouvelle loi crée une inégalité de traitement injustifiée entre les enfants handicapés et les camarades normaux. Seuls les enfants ne souffrant d'aucune affliction physique ou psychique pourront désormais aller dans une école privée. Bruno Sapaz et sa famille ne nourrissent aucune animosité à l'égard de l'enseignement public. Ils y ont vécu de très bonnes expériences et l'inscription de Jérémy en école privée a été dictée par diverses contingences. Ce n'est pas un choix de riche, comme on pourrait le penser. Mmh. Jérémy allait se retrouver dans une classe beaucoup plus grande où il aurait été plus difficile de suivre. Il a un implant cochléaire, mais seulement d'un côté.
Oui, ok, d'accord.
Et il doit compléter sa compréhension par la lecture labiale. Donc cela implique d'être constamment face au visage du professeur, impossible quand l'enseignant s'adresse à de nombreux élèves, évidemment. Évidemment. Alors au canton où il habite, on a conscience de la situation particulière des enfants placés en école privée. Serge Loutan, chef du service de l'enseignement spécialisé, se veut rassurant pour les Chapaz et les autres familles dans le même cas. Nous avons déjà dit à ce papa que durant la phase de transition entre l'ancienne et la nouvelle loi, les mesures en vigueur seraient maintenues au moins jusqu'à la fin de la période de formation en cours. Il reste une année à Jérémy avant de boucler son école obligatoire et ses projets sont bien dessinés. Une année de raccordement afin de pouvoir accéder au gymnase, c'est-à-dire l'équivalent du collège ici, du cégep.
Okay.
Puis une formation d'informaticien, métier compatible avec son handicap.
Exactement.
C'est aussi pour cet enjeu d'insertion que ça se bat la famille Chapaz. Nous pensons à tous les autres après nous. Le but, c'est d'éviter à nos enfants de se retrouver à l'AI. C'est pour ça que nous optons pour des solutions personnalisées.
Oui, j'imagine que c'est une... En tout cas, ça ne doit pas être un endroit très, très satisfaisant, l'AI en question. Mais moi, ce que je retiens de ce papier-là, Anne-Laure, c'est que c'est pareil partout.
C'est ça, exactement.
C'est pareil partout. En Suisse, on pourrait penser que oui, oh, peut-être, ils sont plus avancés par rapport aux enfants handicapés. Ben non, et puis on s'aperçoit que c'est la même chose, quoi.
Exactement. Alors, vous pourrez écouter José Lalonde. Elle, elle va nous parler des défis, au fait, devant lesquels elle est placée, puisque son groupe d'enfants sourds au CPE La Fontaine a du mal à combler les places, puisque de plus en plus d'enfants reçoivent des implants cochléaires très jeunes.
Okay.
Donc, ils sont en train de réviser la façon dont ils peuvent travailler.
Okay,
et réinventer un peu ce groupe pour toujours être utile et, avec ses enfants.
Très intéressant. Vendredi, midi et demi, Accès Libre, animé par Luc Fortin.
Exactement.
Merci. Voilà, petite précision pour les fidèles hein, de Canal M, bien sûr, l'émission Accès Libre est à midi, mais c'est à midi et demi que ces deux invités viendront rejoindre en studio Luc Fortin. Me voici dans les pages du droit, puisque vous avez peut-être reconnu le jingle régional, justement, et j'ai été attirée par le titre de la chronique de M. Graton hier, c'est « Né pour un petit pain ». Pourquoi ? Eh bien, il parle d'un Jean-Paul Perrault, d'impératif français, qui s'est déclaré contre la construction des deux tours Brigille. Ça, ce sont deux tours qu'on va construire à Gatineau, me semble-t-il. Et alors, il y a des gens qui sont pour, il y en a qui sont contre. Et ce monsieur-là, il est pour, il est contre. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il dit qu'encore une fois, ce sont les Anglais qui pourront s'offrir un appartement dans ces deux tours-là, mais que les francophones n'ont pas les moyens de pouvoir avoir accès à un appartement dans ces tours-là. Et là, il y a M. Graton qui dit « Si j'étais Québécois, je serais légèrement insulté par les propos de M. Perrault. Dit-il que les Gatinois sont nés pour un petit pain, que ces deux tours sont financièrement inaccessibles et qu'ils ne peuvent qu'en rêver ?» Et le WE, l'édifice à condos qui a ouvert ses portes cet été, est-il aussi réservé aux plus nantis de ce monde, les Ontariens, comme les appelle Jean-Paul ? Le condo le moins cher dans ce luxueux bâtiment se loue 1 050 $ par mois, et on parle du moins cher, un logement d'une chambre à coucher d'à peu près 700 pieds carrés. J'ai appelé au WE hier matin. On m'a dit que les condos qui se louent à 1 050 $ mensuellement sont déjà tous loués, mais qu'il en reste un à 1 350 $ par mois. Et celui-là est de 800 pieds carrés. C'est beaucoup trop cher pour les petits Québécois. C'est ça, n'est-ce pas, M. Jean-Paul ? Faut-il en conclure que le WE est occupé uniquement par des Ontariens ? Sauf un, parce que j'ai un ami gatinois qui vient d'emménager dans ce bâtiment, mais il ne compte pas, lui. Il est riche, dit Graton. Et je demande ceci, cher ami Delmer, quand tu dis que ce sont les saprés ontariens qui envahiront les deux tours Brigille, inclus-tu dans ce nombre les quelques 145 000 franco-ontariens d'Ottawa? Ne sommes-nous pas les bienvenus dans la belle province? Si c'est le cas, t'aurais pu me le dire avant que j'aille vivre 5 ans à Elmer et 8 autres à Hall et à Valdémont. Mylène Moisan, aujourd'hui, se penche vers un phénomène que nous connaissons tous. On est très nombreux, je dis on parce que ça aurait pu m'arriver aussi, ou ça m'arrivera peut-être, à appeler l'ambulance alors qu'on n'est pas atteint par quelque chose de grave. Et par exemple, elle parle d'un monsieur qui était dans un CLSC. Il souffrait apparemment d'une infection urinaire, ce qui n'est pas considéré comme grave. Qu'a fait l'infirmière? Elle a appelé le 911 pour que l'homme soit amené à l'hôpital en ambulance. Le transport par ambulance est souvent la seule option possible pour qu'une personne puisse avoir accès à des soins rapidement. C'est pour ça qu'on fait appel aux ambulances. Encore plus quand il n'y a pas d'infirmière sur les lieux le soir ou les fins de semaine. Le problème est bien connu. Il y a aussi une autre femme qui s'appelle Emmanuelle Bourdon qui a écrit à Mylène Moisan. C'est une paramédicale depuis 15 ans. Elle a rédigé son devoir, son mémoire de maîtrise à l'Université de Montréal. Alors, elle résume un peu sur le cynisme des ambulanciers dans le contexte des interventions non urgentes. Par exemple, c'était en 2011 à Montréal. Elle a calculé que plus de la moitié des appels n'étaient pas urgents. Elle a rencontré des ambulanciers, évidemment, pour comprendre comment ils se sentaient quand on les prenait pour des chauffeurs de taxi. Eh bien, certains prennent ça avec un brin de philosophie, d'autres vivent très mal avec ça et ils en viennent à envoyer promener les gens qui les appellent pour un mal de ventre, sans chercher à savoir si c'est grave ou pas. Un ambulancier a raconté l'appel le plus inutile auquel il a dû répondre. « Vois-tu, tu t'en vas là, en urgence, tu manques de te tuer ou d'en tuer d'autres parce que tu passes sur les rouges. L'appel est entré comme un problème respiratoire. Le gars s'était donné un coup de marteau sur le pouce. » Un autre parle de certains allées simples. « On va chercher le patient dans un centre et on s'en va vers l'hôpital. Je lis les papiers, ils expliquent le cas. Ils disent « Personne trop lourde, elle ne peut plus revenir ici. » Fait qu'ils l'ont dompé. Je ne peux pas utiliser d'autres termes que « dompé » à l'hôpital. Aux frais de l'État. L'État paie la facture de l'ambulance à presque toutes les personnes de 65 ans et plus. Le ministre Gaétan Barrette est en train de réfléchir à ça. L'État paye aussi pour les victimes d'accidents de la route ou du travail, les prestataires de l'aide sociale, les militaires, les anciens combattants, les membres de la GRC, les autochtones et les prisonniers. Les autres payent 125 $ plus 75 sous par kilomètre. C'est bien loin du prix moyen de 800 $ que coûte chaque transport en ambulance. Voilà sur quoi s'exprimait ce matin Mylène Moisan dans Le Soleil. Un extrait, toujours dans Le Soleil, d'un papier de Jean-Simon Gagné sur la recette des chefs, mais pas les chefs en cuisine, mais bien les chefs politiques. Le truc en politique, c'est d'avoir l'air humain, il dit. Quitte à faire un peu semblant, et ces jours-ci, les publicités du Parti conservateur jouent à fond la carte de la modestie. Stephen Harper n'est pas parfait, mais on peut compter sur lui en matière économique, qui répète des acteurs dont le ton monocorde rappelle vaguement celui d'une classe d'élèves en retenue que le directeur oblige à réciter par cœur un vieux bottin de la ville d'Honolulu. Pouh, ceux-là ne comprennent rien. Nous sommes en politique, que diable, le truc c'est d'avoir l'air humain. Alors le Premier ministre en rajoute. « Je ne suis pas parfait, mais j'aime mon pays », a-t-il confié à la télé anglaise de Radio-Canada. Pardon, excusez-moi. Encore un peu, et notre champion de l'humilité versait une larme, sans même l'aide d'une toute petite pelure d'oignon. Avec une telle performance d'acteur, qui osera persifler, dit M. Gagné, que les discours de M. Harper dégagent autant de chaleur qu'un étal de boucher en acier inoxydable, entreposé dans une chambre froide éclairée par un unique néon blafard? Pas vous, j'espère. Et puis on a annoncé hier à la une du quotidien et dans les pages du quotidien que Monsieur Jean Tremblay, le maire de Saguenay, avait décidé de ne pas se représenter, merci beaucoup, à la course à la mairie en 2017. Et il dit, Monsieur Tremblay, aujourd'hui qu'il n'a aucun regret. Il n'a pas l'impression que son rôle de maire l'a privé de quoi que ce soit, même s'il confirme qu'il a compliqué les choses à certains moments, notamment pour ses proches. Les deux enfants de Jean Tremblay ont choisi de quitter la région, une décision qui n'est pas étrangère aux fonctions de leur père. Sa fille, âgée de 30 ans, habite à Montréal. Son fils de 31 ans travaille à Zurich depuis 2 ans. Ça serait plus difficile s'ils étaient dans la région, pour eux et pour moi aussi. Quand c'est dur pour eux, c'est dur pour moi, affirme-t-il d'emblée. Jean Tremblay raconte que son fils a déjà souffert de son rôle de mère. Mon garçon a eu une période difficile à l'école entre 12 et 14 ans. Il décrochait. On a découvert qu'il se faisait harceler par un professeur et par les élèves parce qu'il était le fils du maire. Ça a été difficile, il a fallu le changer d'école. Et plus tard, il ne voulait pas travailler dans la région à cause de ça. Il ne voulait pas être jugé par des gens qui n'aiment pas son père. Alors il travaille aujourd'hui à Zurich, loin de l'actualité régionale. Sa fille, donc, vit à Montréal, une ville où les propos du maire ont souvent eu des échos. « C'est arrivé que ma fille ait entendu des réflexions désagréables sur moi. Elle n'aime pas ça », confirme-t-il. Quant à sa conjointe, Jean Tremblay affirme qu'elle a toujours été là derrière lui. Il assure qu'elle le soutient dans ses décisions. « Elle est très contente de ma décision. Ma conjointe veut que je sois bien. Elle a toujours été une conseillère pour moi. C'est une femme qui a beaucoup de jugement. Ma femme, dans ma carrière, c'est fondamental. C'est la première qui a cru que je pouvais devenir mère. » Et nous voici rendus, pardon, à l'actualité internationale. Et on commence aujourd'hui avec la crise des réfugiés parce que finalement l'Union européenne est parvenue à un accord mais difficile sur les migrants, écrit Sarah R. Champagne dans Le Devoir. Pressée par l'urgence et malgré la dissension, les ministres de l'Intérieur de l'Union européenne ont adopté mardi au forceps une répartition de 120 000 réfugiés, une fraction du total déjà arrivé. L'accord est cependant survenu au prix d'une fracture avec les pays de l'Est, hostile à un mécanisme de solidarité entre Européens. En début de journée mardi, tout laissait croire que les 28 ministres auraient du mal à parvenir à une entente. À son arrivée à l'importante réunion à Bruxelles, le ministre allemand de l'Intérieur prévoyait une discussion très difficile. « Je ne suis pas sûr que nous aurons un résultat », avait ainsi déclaré Thomas de Maizière. « Tous les pays membres devront se soumettre à ce transfert qui aura lieu en 2 étapes. Elle concernera dans un premier temps 66 000 personnes en besoin manifeste de protection arrivées en Italie ou en Grèce. Elles doivent être enregistrées et sélectionnées rapidement à partir de centres baptisés « hotspots ». Les autorités nationales de ces deux pays, particulièrement touchés par le flot de demandeurs d'asile, reçoivent l'appui d'agences européennes de coopération, entre autres sur les policiers, sur les aspects policiers, frontaliers et judiciaires. Visite historique au thème politique explosif. On parle de la visite du pape aux États-Unis. François a l'approbation d'une majorité d'Américains, mais les réserves de certains. C'est un papier de Jean-Louis de la Vessière de l'AFP à Washington. Le pape François a posé pour la première fois les pieds aux États-Unis mardi pour une visite historique de 6 jours qui risque de bousculer nombre d'Américains dans leurs convictions sur le climat et l'immigration. Venu de Cuba, le pape est arrivé peu avant 16 heures à la base aérienne d'Andrews, accueilli à sa descente d'avion par toute la famille Obama. Il a salué le président américain, Barack Obama, sa femme Michelle, tous deux bleus pastel vêtus. On en revient tout à l'heure. Pourquoi est-ce qu'on nous... Mais pourquoi est-ce qu'on nous précise comment elle était vêtue? On n'en a rien à... Vraiment. Et puis, il y avait ses deux filles, Malia et Sacha, ainsi que les membres de la famille du vice-président catholique Joe Biden. Son radicalisme social au pape François lui vaut de très vives inimitiés chez les conservateurs et les milieux économiques libéraux, de Wall Street au Tea Party, jusque dans les rangs des républicains. Le fait qu'il vienne de Cuba, où il a évité de critiquer le président Raúl Castro, ne fait qu'irriter un peu plus ceux qui jugent que ce pape est un marxiste déguisé ou un traître à la fois catholique, qui serait trop souple sur la doctrine. Outre sa rencontre avec M. Obama à la Maison-Blanche mercredi, François est particulièrement attendu jeudi devant le Congrès et vendredi à la tribune des Nations Unies sur des thèmes hautement explosifs. Dans l'avion qui l'a amené à Washington, le pape a promis de ne pas évoquer devant les élus du Congrès la sensible question de la levée de l'embargo économique des États-Unis contre l'île communiste de Cuba. Cette mesure est réclamée par le Vatican, mais les élus républicains s'y opposent. Parmi les autres sujets mentionnés dans ces écrits figurent la protection et l'accueil des immigrés, la défense de l'environnement, avec un plaidoyer ferme pour une révolution énergétique radicale, et la décroissance, la critique des dictatures de la technologie et de la finance, la dénonciation des responsabilités des vendeurs d'armes et des grandes puissances dans la Troisième Guerre mondiale par morceaux qu'ils dénoncent sans cesse. Ça va être très intéressant de suivre toutes ces conférences et ces discours qu'il va donner à droite et à gauche aux États-Unis. J'espère que ça va secouer du monde, espérons-le. Philomène Bouillon est de l'agence France Presse à Lyon. Elle signe un papier ce matin sur le fait que Mme Marine Le Pen va se retrouver devant le tribunal pour incitation à la haine raciale. Son père, nous dit-elle en préambule, est un habitué, mais pour elle, c'est une première. La chef de l'extrême droite française, Marine Le Pen, sera jugée en octobre pour incitation à la haine raciale, pour avoir comparé les prières de rue des musulmans à l'occupation nazie de la France. La présidente du Front national est convoquée devant un tribunal de Lyon le 20 octobre, moins de 2 mois avant les élections locales qui pourraient la porter à la tête d'une région dans le nord de la France. Sera-t-elle à l'audience si près de cette échéance? Oui, bien sûr, je ne vais pas rater une telle occasion, a-t-elle déclaré à l'AFP. Elle a dit quoi? Elle a dit « Je suis désolée, mais ceux qui aiment beaucoup parler de la Seconde Guerre mondiale, s'il s'agit de parler d'occupation, on pourrait en parler pour le coup, parce que ça, c'est une occupation du territoire », a-t-elle déclaré en parlant des musulmans qui prient dans la rue faute de disposer de suffisamment de mosquées. Non, on ne nous dit pas comment elle est habillée. C'est une occupation de pans du territoire, des quartiers dans lesquels la loi religieuse s'applique. C'est une occupation de dire, de préciser, de crier, de surligner. Madame Marine Le Pen, certes, il n'y a pas de blindés, pas de soldats, mais c'est une occupation tout de même et elle pèse sur les habitants, avait-elle insisté ? Bon, un autre scandale implique un politicien britannique. On parle du scandale du Piggate qui hante David Cameron. On révèle dans une très sérieuse enquête, alors qu'il était jeune, que M. Cameron se livrait à plusieurs activités illicites alors qu'il était étudiant, cannabis, hashish. Il aurait été membre du Flame Club, un groupe de fumeurs de drogue, beuveries et vandalisme. On l'associe au club Bullingdon, dont les membres, tous fils de la bonne société, se livraient à des actes de vandalisme en état d'ébriété. Disons que les auteurs brossent le portrait d'une jeunesse on ne peut plus décadente. Alors, quel est le lien avec le cochon? Ça, j'ai très, très peur de ce que je vais lire. Non, je ne vous lirai pas ça. Mais bon, regardez, à un moment donné, il y en a un qu'on a associé à un cigare. Ça vous rappelle quelque chose? Eh bien là, on l'associe au cochon. Alors, le monde en bref, des renforts russes sont attendus. La Syrie préparerait 2 nouvelles bases pour accueillir des renforts russes, signe que Moscou cherche à renforcer sa présence dans le pays pour lutter contre le groupe armé État islamique, a affirmé hier l'Institut IHS Jains, spécialisé dans le renseignement. Cet engagement de Moscou, allié du président syrien Bachar al-Assad, laisse présager, selon des experts américains, une participation directe au combat dans ce pays, ravagé depuis plus de 4 ans par un conflit de plus en plus complexe entre régimes, rebelles, djihadistes et Kurdes. Au Burkina Faso, accord entre putschistes et loyalistes, l'armée burkinabé et les putschistes ont signé hier soir à Ouagadougou un accord en 5 points pour éviter un affrontement accord qu'ils ont présenté devant la presse chez le Mogo Naba, le roi des Mosis, qui est une ethnie majoritaire au Burkina Faso, qui fait figure d'autorité traditionnelle très respectée. Et puis en Chine, le président Xi Jinping entame une visite aussi aux États-Unis, en même temps que le pape. Le président de la Chine a entamé cette visite hier. Il est arrivé à Seattle et il entend séduire le monde des affaires américains, échaudé par le ralentissement de la deuxième économie mondiale. Ce passage sur la côte ouest présente un double objectif pour Xi Jinping. D'une part, il va chercher à dissiper les tensions avec Washington concernant les îles disputées en mer de Chine méridionale, les attaques de pirates informatiques ou encore les accusations de pratiques commerciales déloyales contre des investisseurs américains en Chine. D'autre part, les nombreuses rencontres prévues doivent lui permettre de démontrer au peuple chinois que les États-Unis le considèrent comme un interlocuteur commercial des plus sérieux. Voilà pour l'international. Quelques nouvelles culturelles maintenant. Et je me dirige tout de suite en page 45 du Journal de Montréal, là où généralement Madame Durocher trouve sa niche. Elle aussi revient sur ce scandale de Mike Ward, de Jérémy et la meute. Mais son son de cloche est différent. Mike Ward est-il allé trop loin avec ses blagues sur le petit Jérémy? L'humour permet-il d'attaquer qui on veut, comme on veut? La liberté d'expression des humoristes doit-elle être limitée? Jusqu'où peut-on aller trop loin, demande-t-elle. Savez-vous quoi? Ça va être aux avocats. Ce sera aux avocats de plaider tout ça en cour dans la cause qui oppose la famille de Jérémy Gabriel et l'humoriste Mike Ward. Mais la question qu'on doit aussi se poser dans cette affaire est la suivante. Pourquoi des citoyens ordinaires qui ne sont pas humoristes attaquent-ils eux-mêmes les victimes des humoristes? Pourquoi la meute publique attaque-t-elle des victimes sur Facebook ou en personne? Rire de quelqu'un sur scène, c'est une chose, mais se mettre en groupe et harceler un petit garçon à l'école ou sur les médias sociaux, c'est tout aussi lâche et dégueulasse, non? Une amie de la famille de Jérémy a confié au quotidien Le Soleil, à chaque fois qu'il y avait un spectacle de Mike Ward, le soir même, Jérémy recevait une panoplie d'insultes sur Facebook. À quoi pensaient-ils ces prix Nobel? Demande Madame Durocher. Parce qu'un humoriste faisait une blague, c'était de leur devoir de relayer des propos méchants pour en rajouter une couche. Dans une entrevue en 2014 au Journal de Montréal, Jérémy Gabriel avait raconté qu'il se faisait traiter d'enfant de pédophile et de suceur de pape, puisque des personnes se sont inspirées des propos de certains humoristes pour l'insulter. Alors, demande-t-elle, qui faut-il blâmer? L'humoriste qui fait des blagues de mauvais goût ou la meute de tata qui déverse leur haine envers Jérémy? Mike Ward peut et doit être tenu responsable de ses blagues, mais peut-il être tenu responsable si des nonos intoxiqués à son humour trash décident d'emmerder un enfant? Différent. Oui, certes, madame, enfin, il n'empêche que la meute ne se serait pas tout d'un coup comment agglutiner sur ce petit Jérémy s'il n'y avait pas eu au départ des propos absolument affligeants tenus par monsieur Mike Ward. Et je précise que, et heureusement que Patrick Lagacé l'a fait, ils ne sont pas en cours. Hein. C'est justement là le problème. Ils s'en vont à la Commission des droits de la personne. Ils ne sont pas jugés en cours. Je suis encore dans le journal ce matin avec Isabelle Racicot qui rêve du jour où une série sera articulée autour d'un personnage de couleur. Au Québec, on n'a jamais vu ça, sauf Linda Malo dans Jasmine en 1996, souligne-t-elle. Elle est confortablement installée devant son téléviseur, Isabelle Racicot qui zappait entre les Gémeaux et les Emmy dimanche. Le contraste entre les deux grands-messes du petit écran était si saisissant qu'en cours de soirée, l'animatrice n'a pu s'empêcher de dénoncer la blancheur quasi immaculée du gala québécois sur Twitter. « J'adore notre télé, mais quand je regarde dans la salle des Gémeaux, il manque de diversité derrière et devant la caméra », a-t-elle écrit. Bien que son message ait été partagé sur les réseaux sociaux, Isabelle Racicot affirme que c'est un discours que personne ne veut entendre présentement. En entrevue au journal, l'animatrice explique que c'est en voyant plusieurs comédiennes afro-américaines monter sur scène aux Émis pour récolter des trophées qu'elle a senti le besoin de souligner cette flagrante dichotomie. « C'était spontané », explique-t-elle. « J'étais incapable de ne rien dire. » Le vibrant discours de Viola Davis, première noire à être sacrée meilleure actrice dans une série dramatique aux Émis, a beaucoup résonné en elle, particulièrement quand la star de How to Get Away with Murder a souligné que la seule différence entre les femmes de couleur et les autres, c'est les opportunités. C'était une déclaration d'une grande justesse, commente Isabelle Racicot. Tu ne peux pas gagner de trophée, tu ne peux pas être mis en nomination quand tu n'es même pas là. Alors voilà ce qu'Isabelle Racicot avait à dire sur le sujet. Il me reste un petit peu de temps, on va aller voir du côté de la disque. Qui est en nomination et pourquoi ? Alors, rapidement, et les principaux nominés sont Louis-Jean Cormier avec 6 nominations, album de l'année, choix de la critique et folk, auteur ou compositeur de l'année, chanson de l'année avec Si tu reviens, interprète masculin de l'année, vidéoclip de l'année. À peu près pareil pour Paradis City, Jean Leloup, 6 nominations, album de l'année meilleur vendeur et album de l'année rock, auteur ou compositeur de l'année, chanson de l'année, interprète masculin de l'année. Ariane Moffat est aussi largement en compétition avec 5 nominations, album de l'année, pop, chanson de l'année avec Debout. Interprète féminine de l'année, spectacle de l'année et vidéoclip. Et puis enfin Isabelle Boulet, 4 nominations, album de l'année, interprète féminine et spectacle évidemment de l'année et tout. Bon, donc on retrouve à peu près ces gens-là qui se ramassent là. Il est simplement, par contre, il est difficile de distinguer certaines catégories les unes des autres. Qui signe cela ? C'est Émilie Côté ce matin dans la presse. Philippe Braque, Louis-Jean Cormier, Kevin Parent, Fred Pellerin et Tyler Le Cobock sont en lice pour le meilleur album folk, alors que Pierre Flynn, Marc Hervieux, Patrick Normand et Mario Pelchat et Marie-Pierre Arthur se retrouvent dans celle de l'album adulte contemporain de l'année. Permettez-moi quand même d'en rire un petit peu et de passer à un autre sujet. Tiens, voilà ça. Charme est le film qui décapote. Un film tout indiqué pour Charlie Hebdo, écrit Nathalie Petrovski ce matin. Laissez-moi vous dire de quoi il s'agit. Le film, dont le titre original était Les enfants du prêtre, raconte l'arrivée d'un jeune prêtre dans une petite île des Balkans où la natalité est en chute libre. Alors pour la stimuler, le prêtre entreprend avec la complicité d'un vendeur de condoms de percer tous les condoms en vente sur le marché, puis avec la complicité d'un pharmacien xénophobe de remplacer les pilules contraceptives par des bonbons. Le résultat, on le devine, sera désastreux pour une foule de couples accidentels qui deviendront parents. Malgré eux. Alors voilà, c'est comment ça s'appelle ? Ça s'appelle Bonté divine, qui démontre avec brio l'absurdité des politiques anticontraceptives de l'Église catholique, y compris du pape François, qui s'oppose encore au contrôle artificiel des naissances. Voilà ce qui conclut les actualités culturelles, ce qui conclut aussi ce magazine, Les Voix de Service. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à l'entendre que moi à l'animation avec les voix de service qui se sont présentées aujourd'hui au micro et que je remercie infiniment mes collaborateurs. Donc, merci aussi à Mathieu Tessier et puis bienvenue à Christiane Campagna qui est déjà en studio pour vous présenter le bulletin du handicap. Bonne journée tout le monde et à demain, 9h.
Bonjour, mon nom est Daniela Ferrière et vous écoutez Canal M, la radio de Vues et Voix.
Canal M, pour voir autrement.
Le bulletin du handicap.
Bonjour, ici Christiane Campagna et voici vos manchettes en ce mercredi 23 septembre. Un meilleur financement du transport adapté est réclamé à Drummondville. Maladie de Parkinson, des chercheurs montréalais font une percée prometteuse. Le Centre Sheraton Montréal, premier récipiendaire du prix Otelia Accessibilité. Inca Québec présente ses ateliers d'automne et Philippe Bédard dans le dernier droit. Une cinquantaine de membres de l'Association des personnes handicapées de Drummondville, l'APHD, ont manifesté mardi matin aux abords du boulevard Saint-Joseph afin de dénoncer le manque de financement pour le transport adapté dans la région. Selon l'APHD, une trentaine de personnes handicapées se sont fait refuser des transports cette année faute de fonds, une situation qui complique grandement l'accès au travail ou à des rendez-vous médicaux, soutient l'association. À l'heure actuelle, la ville de Drummondville paie 34 % du financement pour ce service dans la région. Selon le directeur général de l'APHD, le problème vient du ministère des Transports du Québec, le MTQ, qui en fait moins que ce qu'il devrait. Le ministère, lui, d'après son dernier décret, doit donner 65 % du financement aux transporteurs et il en donne 49,4 %. On voit déjà où est la problématique du manque de financement, déplore-t-il. Une pétition a été lancée par l'APHD afin de demander au MTQ de revoir le niveau de financement de ce service. On estime à environ 700 le nombre de personnes handicapées dans la grande région de Drummondville. Des chercheurs montréalais ont élucidé un mécanisme à l'origine de la progression de la maladie de Parkinson dans le cerveau. Nous pouvons maintenant cartographier la maladie avec plus de sensibilité qu'auparavant, s'est réjoui le docteur Alain Daguerre de l'Université McGill, auteur principal de l'étude. Cette cartographie permet de mieux comprendre la maladie et sa propagation. Les travaux des chercheurs ont démontré que les cellules cérébrales des malades se détériorent selon le mode de propagation d'une maladie à prions, autrement dit, qu'un agent toxique se propage d'une cellule cérébrale à l'autre par les connexions normales du cerveau. Des mécanismes similaires sont aussi à l'œuvre dans la maladie d'Alzheimer et l'encéphalopathie spongiforme bovine. Ce processus entraîne la propagation de l'alpha-synucléine, une protéine toxique capable de se reproduire et d'infecter des cellules voisines en empruntant la voie neuronale du cerveau. Les conclusions de cette étude ont une portée thérapeutique prometteuse. En effet, les traitements actuels ne permettent que de contrôler ou de minimiser les symptômes de la maladie de Parkinson, soit le tremblement, la lenteur des mouvements, la raideur ou rigidité, ainsi que la perte d'équilibre. À plus long terme, on pourrait mettre au point des thérapies ciblant la protéine responsable de la maladie de Parkinson, l'alpha-synucléine, pour prévenir, ralentir, interrompre, voire inverser sa progression. Les résultats de ces travaux ont été publiés dans la revue scientifique Life Journal. Les lauréats de la première édition des prix Otelia ont été dévoilés à l'occasion d'une soirée au cabaret du Casino de Montréal. Près de 125 hôteliers et partenaires du milieu touristique montréalais ont pris part à l'événement présenté par Open Face Internet. Organisé par l'Association des hôtels du Grand Montréal, l'AHGM, ce concours récompense les meilleures initiatives hôtelières montréalaises en matière de marketing, de gestion des ressources humaines, d'accessibilité et d'implication communautaire ainsi que d'éco-responsabilité. Le prix Accessibilité est présenté par Kéroul et rend hommage aux mesures implantées par un établissement ayant amélioré de façon significative l'accessibilité aux personnes en situation de handicap. Il a été remis au Centre Sheraton, Montréal. L'amélioration constante des installations et la formation donnée au personnel du Centre Sheraton, Montréal permettent aux personnes en situation de handicap de vivre une expérience à la hauteur de leurs attentes. L'établissement figure également parmi les établissements de la route accessible. Au-delà du bâti, Le jury a porté une attention particulière à l'environnement humain et la prise en charge du bien-être des individus. Et c'est en ce sens que le Centre Sheraton a su se démarquer. À Inca Québec, l'automne rime avec projets spéciaux. Si vous avez soif de connaissances et avez envie d'échanger avec des personnes ayant des intérêts similaires, inscrivez-vous aux ateliers cuisine et parfum. Suite au succès de l'année dernière, l'organisme vous propose de nouveaux ateliers Cuisinons ensemble. Deux professionnels invités aborderont les sujets de la saine alimentation ainsi que l'adaptation de la cuisine pour les personnes aveugles ou ayant une vision partielle. Les participants pourront aussi échanger leurs trucs et astuces, leurs recettes préférées et plus encore. Ce service est offert par téléconférence sur une base hebdomadaire et à une durée de 4 semaines. Le 29 octobre, de 10h à 11h30, l'invité spécial sera Gilda Delaunay, diététiste nutritionniste au C3S du Sud-Ouest, Verdun. Le 5 novembre, de 10h30 à 11h30, l'invité spécial sera Richard Leclerc, spécialiste en réadaptation en déficience visuelle au Centre de réadaptation Le Bouclier. Les 12 et 19 novembre, de 10h30 à 11h30, l'animateur Jess vous présente ses succulentes recettes faciles à réaliser. Les ateliers sur l'univers du parfum sont organisés en collaboration avec l'Association éducative et récréative des aveugles, l'AERA. Ce nouveau service est offert par téléconférence sur une base hebdomadaire, et à une durée de 4 semaines. L'animateur Jean-Daniel Aubin vous présente le programme suivant. Semaine 1, l'histoire du parfum. Semaine 2, souvenirs et odeurs auxquels on s'identifie. Semaine 3, comment s'approprier un parfum et bien le porter. Semaine 4, consultation personnalisée, conseils et questions. Hâtez-vous pour vous inscrire car il ne reste que quelques places. Pour plus d'informations pour vous inscrire, contactez sans tarder Pascal Roy au 1-800-465-4622, poste 223. Des tournois à Mississauga et à Hilton Head en Caroline du Sud, le tennisman en fauteuil roulant Philippe Bédard était de passage dans la région. Le Bromontois recevait l'appui de sa communauté vendredi dans le cadre de la 5e édition du cocktail bénéfice annuel de la Fondation Philippe Bédard. Il en profitait notamment pour faire le point sur sa saison qui doit s'achever dans quelques semaines. Le Bromontois a accumulé plusieurs victoires et quelques présences en finale cette année. Son plus haut fait d'armes demeure la médaille de bronze décrochée en double avec le Torontois Joël Dembé aux Jeux parapanaméricains de Toronto en août. Sa préparation avait toutefois été sérieusement bousculée par une blessure qui l'a tenu éloigné des cours pendant 2 mois en pleine période estivale. Jusque-là, Bédard avait le vent dans les voiles. « C'était ma meilleure saison en carrière. J'étais très content de mon niveau de jeu. Je venais de battre 2 joueurs du top 30 et j'étais le 4e meilleur joueur en Amérique du Nord », souligne l'athlète de 34 ans. Je reprends la forme lentement et je dois faire plus de tournois à cause de cette blessure. Bédard a mis en banque plusieurs points en atteignant le 2e tour du US Open au début du mois, tournoi pour lequel il avait obtenu un wild card. Il s'était rendu en finale quelques jours auparavant en Oregon. Tout de même fier de ce qu'il a accompli cette saison, Bédard garde le cap sur les Jeux paralympiques de Rio en septembre prochain. Il ne souhaite pour rien au nouveau monde manquer le rendez-vous quadriennal. Pour assurer sa sélection au sein de l'équipe canadienne, il devra toutefois se maintenir parmi les 40 meilleures raquettes mondiales. Bédard souhaite se rendre au Chili lors des 2 dernières semaines d'octobre pour prendre part à 2 tournois. Les précieux points accumulés pourraient lui permettre d'assurer sa participation aux Jeux paralympiques de Rio. Il devra toutefois obtenir une exemption de Tennis Canada pour éviter d'avoir à défendre son titre au championnat canadien qui se tient à Vancouver dans la même période. C'était le bulletin du handicap sur Canal M, la radio de Vues et Voix. Le bulletin, ainsi que les liens vers les nouvelles et organismes mentionnés, sont disponibles au vuesetvoix.com. Bonne journée tout le monde!